Bah, nous sommes en ligne, moi j'entendais le jingle, mon petit Bernardo.
Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Gérald, c'est moi. Bernardo et Boris sont en régie, comme tous les mercredis soirs.
Bonsoir à tous. Et bonsoir à notre invité.
Alors nous avons une invitée de choix ce soir, nous connaissons déjà, qui est déjà venue ici.
Oui, je suis déjà venu vous rendre visite, oui, c'est vrai.
Et nous rencontrons aussi à l'occasion de grands événements lyonnais.
Oui.
Elle flotte en général quand elle arrive. Oui. Elle arrive en flottant, en lévitation. Elle me fait beaucoup penser, je lui ai déjà dit, elle le sait, à Sainte-Thérèse, à l'extase de la sculpture de l'extase de Sainte-Thérèse.
Tu me gâtes.
D'après le Bernin, enfin du Bernin, qui se trouve au Gesù à Lyon. Ah, à Lyon, non, à Rome. Pas encore à Lyon.
En plus, t'as de la culture, c'est bien.
C'est sœur Lola Rosa.
Je suis avec vous, les enfants. Bonsoir et merci de nous écouter, mes chers enfants. C'est Lola Rosa qui cause dans le poste.
Alors, Lola Rosa, je me suis dit, il faut que je l'invite. Je l'invite parce qu'il se passe des choses extraordinaires en ce moment. Jusque-là, on connaissait le couvent des 69 Gaules, que j'ai souvent invité ici.
Oui.
Voilà. Le couvent dont tu faisais partie.
Oui, j'étais au 69 Gaules, effectivement.
Donc,
oui.
L'imparfait, déjà, est révélateur de ce que...
Oui.
Y aurait-il eu un schisme ?
Il y a des choses qui ont été et qui ne sont plus.
D'accord.
Alors, schisme, oh, c'est un bien grand mot.
Oui. Oui, mais comme on est un peu dans les ordres religieux,
il y a souvent
eu des schismes.
Bon, allez, utilisons le mot schisme.
Donc, en fait, on a su que, depuis quelques ans, on a vu en tout cas apparaître un peu partout le nom du couvent des Traboules.
Un nouveau couvent, oui, pour toutes les folles de Lyon. Le couvent des Traboules, parce que c'est un peu long, humide, sombre, propice aux rencontres.
D'accord. Et puis c'est lyonnais aussi.
Et puis c'est lyonnais, oui. Partout dans le monde, on connaît les Traboules.
Bien sûr.
En anglais, ça donne trouble.
Alors, la question que je me posais, justement, c'est comment se fait-il que ce couvent est apparu subitement ? Qu'est devenu le couvent des 69 Gaules ? Que s'est-il passé, en fait ?
Bon, nos sœurs des 69 Gaules n'ont pas disparu, heureusement. Elles continuent, elles aussi, à arpenter les trottoirs. Et du reste, j'en profite, je les salue ce soir. J'espère qu'elles font un très très bon travail. L'année dernière, en fait, nous nous sommes aperçus tout ensemble que nous avions un peu des divergences de point de vue. Bon, c'est pas extraordinaire. Je pense que dans beaucoup d'associations, il peut arriver la même chose. On peut avoir des divergences de point de vue sur la conduite de l'association, sur ce que doit permettre une association aux bénévoles, sur quel lieu, en fait, l'association propose, quels sont les types de projets qu'on peut y avoir, et comment on peut vivre sa vie dans une association. Je pense que ça se pose à tous les niveaux, dans toutes les associations. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand nous ne sommes pas en accord avec la conduite des événements, chacun est renvoyé à... Comme le disait notre cher ami Taubira, rester pour résister ou partir pour résister. C'est ça la question. Donc je pense que nous avons fait l'année dernière le constat que nous avions des divergences. Et il était temps que nous séparions afin d'éviter d'être dans des conflits beaucoup trop importants et qui auraient été, je pense, un peu néfastes pour l'ordre des sœurs de la perpétuelle indulgence. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la joie... nous avons fondé notre couvent des Traboules et nous invitons toutes les personnes qui le souhaitent à nous rejoindre le 26 mars pour l'érection de ce nouveau couvent. Voilà.
Alors ça, c'est un événement, on en reparlera, qui se passe au
centre LGBT, rue des Capucins.
Rue des Capucins. Alors, les divergences en question... c'était donc des divergences d'ordre théologique.
Non, c'était plutôt des choses pragmatiques sur la conduite, un peu la conduite du couvent, c'est-à-dire de l'association, son mode de gouvernance. Aujourd'hui, je reprendrai un peu des propos qu'a tenus Clémentine Autain. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Clémentine Autain, oui.
Qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui les militants, les bénévoles, les gens qui s'engagent dans des mouvements, dans des associations ? Aujourd'hui, les gens veulent participer le plus possible à la conduite des affaires. Nous souhaitons que des modes de gestion soient le plus horizontal possible. Bon, ce n'était pas le cas au couvent des 69 Gaules. Donc, bien sûr, ça crée des frictions. Bien sûr, il peut y avoir des niveaux d'insatisfaction. Après, nous n'avons pas tous ou pas toutes la même conception de qu'est-ce qu'une association peut apporter à un bénévole en termes d'émancipation, en termes de conduite de projet, ou même qu'est-ce que c'est appartenir à une association en termes d'action citoyenne. Voilà. Donc je crois que toutes ces choses-là nous divisaient quand même. Mais j'ai envie de dire, c'était pas d'il y a 5 minutes. Hein. Je crois que cette divergence de point de vue, elle nous taraudait déjà depuis 2 ans, au moins, au couvent. Donc, le temps que tout ça mûrisse, que les gens prennent conscience, et que certains événements soient déclencheurs aussi, parce que quelquefois, il faut des événements pour déclencher d'autres événements. Voilà. Donc là, l'année dernière, nous avons vécu un événement déclencheur qui a révélé, je pense, au grand jour, nos divergences de point de vue.
Rupture était devenue inévitable à ce moment-là.
Oui, je pense que il fallait que chacun ou chacune, en tous les cas, retrouve à la fois un contexte de travail qui nous satisfasse, mais pour ça, il fallait que nous quittions l'association des 69 Gaules pour créer une association dans laquelle nous nous sentirions à l'aise pour travailler, en fait. Parce que quand même, le principal, je pense, dans l'action bénévole, et c'est vrai pour toutes les associations, c'est que les bénévoles se sentent bien dans leurs activités de bénévoles, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent protégés, et puis surtout qu'il y ait du désir à agir.
Et ce n'était plus le cas, visiblement, donc, aux 69 Gaules.
Visiblement, non. Mais heureusement, grâce à tout ce que nous avons mis en place, je pense que chacune d'entre nous, que ce soit aux 69 Gaules, j'espère, je pense, j'imagine qu'elles ont retrouvé une joie d'agir du fait de notre départ. Et nous, de notre côté, nous avons aussi maintenant retrouvé une entière maîtrise et pleine joie d'être sœurs de la perpétuelle indulgence sur les trottoirs de Lyon, parce que nous sommes partis et que nous avons retrouvé une envie, un désir d'agir, en fait.
Alors, en fait, moi, ce qui m'interpelle un petit peu dans cette affaire, si vous voulez, ma chère sœur,
allons-y.
C'est... Excusez-moi, parce que je n'ai pas encore remis d'une grave maladie depuis 2 semaines, là, qui me poursuit. Je tousse, je suis désolé, chers auditeurs. J'espère que ça ira mieux.
Mais oui. Mais...
Quand je serai mort, ça ira mieux. Donc, en fait, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, surtout, c'est vos rapports sont cordiaux, sont restés cordiaux, ou c'est quand même conflictuel? Parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver ensemble sur le même type d'événement, vous allez vous retrouver au même endroit, vous allez vous crêper le chignon, vous griffer.
Quelle bonne question tu poses, mon cher enfant. En ce qui nous concerne, au couvent des Traboules, nous ne sommes absolument pas dans l'inamitié avec nos sœurs. Mmh. Nos sœurs restent nos sœurs. Mmh. Et nous avons pleinement conscience, en tous les cas au Traboules, que les sœurs qui nous ont donné naissance, celles qui nous ont accompagnés, celles qui nous ont formés, celles avec lesquelles nous avons eu des échanges, quelquefois des moments de joie, et des moments des petits bonheurs et des petits malheurs, on va dire, ce sont bien nos sœurs des 69 Gaules. Voilà. Et au-delà des sœurs des 69 Gaules, bien sûr, notre filiation, elle vient du couvent des Chênais et du couvent de Paris. Voilà. Donc, on est tout à fait conscients de cette filiation. Nous ne sommes absolument pas dans les récriminations ou l'inamitié vis-à-vis de nos sœurs des 69 Gaules, bien au contraire. Et puisque tu souhaitais parler de cette journée du 26, nous avons imaginé au couvent des Traboules ce que nous appelons un synode.
Ah oui.
Voilà. C'est tu sais que le mot synode veut dire marcher ensemble. Donc nous avons invité nos sœurs des 69 Gaules et les sœurs qui se trouvent disponibles et en France à nous rejoindre le 26. Dans la matinée pour essayer de parler et d'évoquer ensemble le sujet de la bienveillance. C'est vrai que depuis leur création, les sœurs sont dans la bienveillance vis-à-vis de la communauté, mais Essayons de nous poser la question de comment se manifeste cette bienveillance entre nous, entre sœurs. Et comment ça va se manifester au quotidien, etc. Donc c'est aussi une occasion pour nous de tendre la main à nos sœurs des 69 Gaules, de façon à pouvoir évoquer ces questions-là et de travailler dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur, puisque c'est aussi le premier message que les sœurs de San Francisco ont énoncé. J'en profite juste pour faire une petite aparté rapidement. Je crois que, et les auditeurs me comprendront, ou en tous les cas ça va faire une référence, ou ça va leur donner des images. Je crois que les sœurs de la perpétuelle indulgence sont un mouvement profondément pacifiste. Et quand je dis pacifiste, c'est-à-dire que nous œuvrons pour la paix dans le monde et la paix entre les communautés. Et aujourd'hui, en tous les cas, où on voit à longueur de journaux, dans les radios, à la télévision, des journalistes qui tiennent plutôt des discours qui justifient ou qui entérinent les états de guerre, nous nous insurgeons, nous les sœurs. Nous sommes foncièrement convaincus que la paix, c'est la seule issue pour l'humanité, en fait. Donc, bien évidemment, partant de cet état d'esprit-là, tu peux bien t'imaginer qu'il ne peut pas y avoir d'inamitié entre voilà. nous.
Et... Voilà. Alors donc, c'est une main tendue au couvent des 69.
Oh, mais oui, bien sûr.
Est-ce qu'elle sera, à ton avis, à votre avis, pardon, ma sœur ?
Ça leur appartient. C'est leur, c'est leur
pleine
et entière responsabilité. En tous les cas, nous avons fait, nous, de notre côté, tout ce qui est en notre pouvoir. Nous avons envoyé des tas de petits messages pleins d'amour. Nous avons envoyé, et nous souhaitons vraiment que le plus de sœurs possible participent à cet événement, ne serait-ce que parce que ça sera l'occasion de parler de qu'est-ce que c'est être bienveillant vis-à-vis de la communauté et entre nous.
Alors, c'est une journée, pour revenir à cette journée donc, du 26 mars, par contre, porte ouverte, je dirais aussi.
Bien sûr.
Tout le monde peut venir.
Oui, oui, bien sûr. Alors, la journée va se découper un peu en deux parties, parce qu'on va quand même pas faire lever tout le monde à 10h du matin. Mais par contre, les sœurs, dès que matine sera sonnée, nous serons requises pour faire l'ouverture de ce synode que nous avons appelé le synode des maquerelles.
D'accord.
Où nous allons nous retrouver donc ensemble, entre sœurs. Et à partir de 18h, nous avons invité toutes les associations, toutes les personnes de la communauté lyonnaise, LGBT lyonnaise, de façon à pouvoir... parce qu'on souhaite aussi avoir un petit moment de parole avec toutes les personnes qui seront présentes. Un petit moment de parole qui nous amènerait à réfléchir ensemble à ce qu'apportent les sœurs dans la communauté. Qu'est-ce que leur présence, leur message apporte à chacun, à chacune d'entre nous.
Oui.
Alors, ensuite, un apéro, bien évidemment. Parce que bon, quand même, apéro.
Bien sûr. Donc, en fait, le fait est, c'est vrai que les sœurs, on oublie parfois... parce que leur présence est assez souvent extravagante, il y a beaucoup d'accessoires, tout est énorme chez les sœurs. Hein ?
Un peu, oui.
Voilà. Mais en fait, il y a un côté militant. N'oublions pas aussi que les sœurs, à la base, sont nées par rapport à l'épidémie à San Francisco, par rapport à la pandémie du sida et à l'infection au VIH, et que c'était des militantes. Donc,
oui. J'ai envie de dire, pour rejoindre ce que tu es en train d'évoquer, le premier message des sœurs envers l'ensemble des composantes de la communauté, c'est un message de lutte contre les discriminations, de rejet de la honte et de la culpabilité stigmatisante. Parce que nous avons fait le constat que les stigmatisations, que la honte que chacun d'entre nous peut intégrer dans sa vie ne fait jamais bon ménage avec la santé. Donc les sœurs, c'est leur premier message, soyez fiers de ce que vous êtes beaux, vous êtes belles, telles que vous êtes. Et puis surtout, essayons de nous serrer les coudes les uns envers les autres. La communauté doit se souder. Les personnes qui nous discriminent, ce sont les lois, ce sont les morales religieuses. Donc il faut essayer de combattre tout ça. Donc ça, c'est le premier message des sœurs. Et le deuxième, bien évidemment, puisqu'on était en 79, très rapidement, un an ou deux après, l'épidémie qui n'avait pas de nom à l'époque, hein, mais qui commençait déjà à faire des ravages dans la communauté gay, nous a obligés à imaginer un message, j'ai envie de dire, de soin, le care, ou la bienveillance les uns envers les autres, de façon à prendre soin chacun d'entre nous, à la fois de soi-même, mais à la fois des autres,
oui,
et de la communauté.
Un message qui était indispensable à l'époque.
Où, oui, et j'en parlais.
Désarroi et la panique régnait.
Oui, on évoquait cette question il n'y a pas très longtemps, puisque cet après-midi, j'ai assisté à une réunion qui réunissait pas mal d'associations qui font de la prévention et qui s'occupent de la santé sexuelle en règle générale, ou de la réduction des risques et des dommages dans la communauté. On parlait de la première plaquette de prévention qui a été inventée en quelque sorte dans la communauté, qui est celle que les sœurs de San Francisco ont imaginée et qui s'appelait le Playfair, dont vous pouvez trouver la traduction en français sur notre site Couvent des Traboules.
Alors, avant de continuer un petit peu, simplement, je voulais revenir sur la question de base qui nous a intéressé au début de l'émission. Vous avez parlé donc de vos relations avec le couvent des 69 Gaules,
oui,
mais vous avez évoqué, ma sœur, le couvent des Chênaies.
Oui.
Vous avez évoqué les couvents parisiens, les autres couvents français.
Oui.
Comment se passent les rapports alors avec les autres couvents? Comment ont vécu les autres sœurs des autres couvents,
eh bien,
votre aventure scissionnelle?
avec grande joie.
Oui.
Avec grande joie, et à la fois le constat que l'histoire des sœurs a tout le temps été ponctuée, j'ai envie de dire, de divergences, de discordes plus ou moins grandes, mais que ce n'est pas très important, parce que le plus important, c'est que chacune d'entre nous, ce qui nous relie, ce sont les vœux que nous prononçons et qui sont les mêmes pratiquement à quelques mots près ou partout dans le monde. C'est ça qui nous relie. Ce qui fait que finalement, ensuite, les divergences que nous pouvons avoir entre nous sur ou des pratiques ou la traduction, la mise en œuvre, la mise en musique de nos vœux, finalement, c'est pas très important en fait. Et je pense que de toute façon, dans l'avenir, il y aura probablement d'autres dissensions qui vont se faire jour sur des points de vue, etc. Mais ce n'est pas très important, en fait. En tout cas, l'histoire des Sœurs de France a toujours été ponctuée de ce type de... voilà.
Absolument.
Ce n'est pas exceptionnel.
Oui, c'est certain. Donc, on va faire une petite pause musicale et à la suite de quoi, nous aurons un invité téléphonique.
Oh, extraordinaire.
Voilà. Alors, c'est Bernard qui a prévu... qui a prévu la musique, alors je ne sais
Magnifique.
Pas, c'est la surprise. Je
Magnifique.
Sais pas du tout ce qu'il a prévu.
Ah, mais moi je suis tout tweet.
Il a peut-être prévu de chanter lui-même, mais bon, comme il pleut déjà, pas mal.
On va pousser la chansonnette.
Tant qu'alors, je sais pas, Bernardo, que nous as-tu prévu?
Envoie la sauce, Bernardo.
Voilà. Bernardo, Bernardo.
La nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais ployer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais... fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Eh bien, nous voici de retour dans le studio de Pluriel Gay avec à mes côtés la sœur Lola Rosa du couvent des Traboules.
Bonsoir.
Normalement, nous avons en ligne notre invité du soir. Bonsoir.
Bonsoir, toi.
Est-il là ? Allô, allô, esprit, êtes-vous là ? J'entends quelque chose dans le lointain, tu sais, comme une voix dans le lointain. C'est comme Jeanne d'Arc qui entendait des voix.
Ah oui.
Hein, connaissez-vous ça, ma soeur, vous entendez des voix, vous aussi.
Oh ben nous, ça on entend très souvent des voix, oui.
Allô.
Surtout quand on est à genoux.
Bon.
Bonsoir, beauté du soir.
Apparemment, il se passe quelque chose, mais l'invité téléphonique ne nous répond pas. Voilà, donc bon, sinon on va continuer notre conversation.
Oui, hein. Oui, continue.
On va attendre 5 secondes, et puis... Bien, alors c'est pas grave.
On coupera, en fait s'il arrive on coupera, on
voilà,
s'arrêtera.
Voilà, alors justement ma sœur, on parlait de plusieurs choses intéressantes dans ce que vous disiez, tout ce que vous dites est très intéressant, mais moi je vais piocher des petits trucs de droite et de gauche. On avait parlé donc évidemment de l'engagement des sœurs, l'engagement militant important dans le cadre de la lutte contre le sida, contre le VIH et surtout contre les discriminations, les préjugés, etc.
Oui.
Et voilà. Et en fait, je voulais évoquer le fait que justement un événement assez triste, on peut dire, est arrivé récemment, puisque Sida Info Service, qui existe depuis de très nombreuses années maintenant, depuis 1989, ça a été placé en redressement judiciaire. Allô ? Oui ? Il y a quelqu'un ?
Oui, oui.
Ah, bah voilà. Donc je reparlerai plus tard.
Oui,
on se demandait ce qui se passait, j'appelais, mais dans le vide. J'entendais des voix dans le lointain, mais personne ne me répondait vraiment. Donc,
oui, j'entendais pas.
Alors donc, bienvenue sur les ondes de Pluriel Gay.
Merci.
Donc, je vais dire qui vous êtes, vous présenter. Alors, oui. Moi, je suis un peu perplexe parce que, en fait, je vais vous présenter comme Léo Betty, mais à une époque, je vous ai connu comme Léo Redola. Alors, que s'est-il passé entre temps?
Écoutez, j'ai pas tellement d'explications à donner par rapport à ça. Peut-être une nécessité de prendre un nom d'emprunt pour tout un tas de raisons.
Bon, d'accord. Voilà, donc pour l'instant, c'est Léo Betty, on va dire. Sur la fiche de votre spectacle actuel, c'est Léo Betty. Donc
ça.
Léo Betty qui se trouve sur la scène du Carré 30 une nouvelle fois.
Oui.
Voilà, on avait parlé du frigo de copies que vous aviez monté et vous jouez au Carré 30. C'était l'an dernier.
Oui, c'est ça.
Et puis là, il se trouve que cette fois-ci, vous montez à nouveau un spectacle, une pièce au Carré 30, qui s'inspire de la correspondance célèbre de Georges Sand de Alfred de Musset.
Voilà, exactement.
Et vous êtes deux sur scène.
C'est ça, est deux sur scène, deux comédiens, oui.
Alors, moi, la première question que je voudrais vous poser, alors le spectacle a déjà commencé, mais il y a encore des dates, on les donnera à la fin de notre entretien.
Oui.
Il y a une question déjà qui m'intéresse, c'est comment vous avez choisi, sélectionné les textes. Sous quel axe vous avez pris, quelle ligne, je dirais, éditoriale, entre guillemets, vous avez pris pour choisir, sélectionner les textes.
Alors, c'est vrai que... Moi, ma motivation première de création, elle était plutôt d'axer le spectacle dans une plongée intérieure des personnages, dans ces personnages, plus que dans une narration. Donc finalement, mon travail de sélection des textes et des extraits de lettres s'est fait comme ça, avec une volonté d'extraire des fragments des fragments qui pourraient être les plus révélateurs ou de leur passion, de ce qu'ils ont pu être l'un pour l'autre. Voilà, c'était ça ma motivation première.
Oui, c'est une correspondance qui, sur la durée, n'a pas duré très longtemps, mais a été très intense,
non,
je crois.
C'est ça. Ça a duré 3 ans, une correspondance de à peu près 3 ans. Exactement, je ne sais pas. Elle est très brève, mais
d'une grande intensité.
C'est ça. Et ça, on est témoin des. De plusieurs états, de plusieurs périodes, parce que toute cette correspondance-là est basée après la rupture. Donc, les choses sont déjà terminées.
D'accord.
Au moment de cette correspondance-là.
D'accord. Alors, Sœur Lola Rosa, le spectacle, on peut voir un peu le teaser, comme on dit maintenant, du spectacle sur YouTube. Je mettrai le lien, d'ailleurs.
Ah, oui.
Et ce qui est fascinant dans le travail de Léo Betti, et c'était quelque chose qui apparaissait déjà dans son travail sur le frigo de Copy, c'est que c'est vraiment du théâtre, c'est-à-dire du théâtre en mouvement. Et ça, ma sœur, ça doit vous plaire, parce que vous aussi, vous faites du théâtre, vous aussi, vous êtes dans le maquillage, dans le mouvement. Et ce que fait Léo Betti, c'est vraiment de l'art théâtral dans le sens, je dirais, le plus théâtral du terme, puisque en l'occurrence, si on regarde le teaser, on se retrouve plongé dans une atmosphère un petit peu 19e siècle, romantique, mais aussi il y a un côté exubérant, il y a un côté masque, le masque, la personnification, le masque théâtral, le maquillage, les costumes, tout est en mouvement. Alors, vous disiez, Léo, que ce n'était pas une simple narration, mais effectivement, la correspondance est en mouvement, vous êtes en mouvement sur la scène, vous avez chaud, vous transpirez sur la scène, c'est vraiment... Est-ce que je me trompe?
Non, mais disons que la...
Je veux dire, le visuel est très important dans ce que vous faites.
Bah, peut-être que ça, c'est un goût que j'ai. J'ai un goût pour le maquillage, pour les masques, pour les costumes. Bon, voilà, ça fait partie de théâtralement de ce que j'aime et probablement de ce que je subis théâtralement. Donc, et le mouvement... C'est disons que dans cette pièce, il y a des moments très immobiles, très flottants, et des moments, oui, plus exaltés. Et voilà, à l'image de ce que moi j'ai pu fantasmer autour de ces deux personnages-là. Enfin voilà, je sais plus. C'est quoi la question par rapport au mouvement?
En tous les cas, moi, ça me donne vraiment envie d'aller te voir, parce que quand je t'écoute, je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être extraordinaire de plonger avec toi dans ce spectacle autour de cette poésie de l'amour fou, de la passion, du déchirement, du désœuvrement, de la frustration. Ça doit être extraordinaire de t'entendre dans ce spectacle.
Alors déjà, le frigo de Copy, il y avait la théâtralité était... je veux dire, il y avait un côté tragicomique dans le frigo de Copy. C'est vrai que le personnage du frigo est c'est un peu différent. Alors, je ne sais pas si vous jouez aussi là-dessus dans la pièce Sand Musset, mais dans le frigo de Copy, il y avait un côté tragicomique, quelque chose, une théâtralité quasi félinienne. C'était on sent l'inspiration théâtrale, un peu le cirque, un peu le mime. Il y a vraiment un peu de tout. La déclamation théâtrale aussi, mais avec un humour parfois incisif. C'était très 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 bien rendu. Alors Sand Musset, je n'ai pas vu la pièce, donc du coup je ne sais pas si c'est le même, mais en tout cas au niveau de la théâtralité, on est un petit peu là. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que le frigo de Copy, donc c'est une pièce qui est axée sur le personnage d'une femme transgenre, et Sand Musset, ce que vous faites, ça a toujours un petit peu à voir avec le genre finalement, parce que George Sand, on sait, à l'époque, au début du 19e siècle, s'habillait en homme par provocation, dit-on, mais elle traînait avec elle à cause de ça une réputation sulfureuse et scandaleuse, parce qu'à l'époque, pour une femme qui met un pantalon, c'était aussi c'était terrible comme un homme qui met une robe. Maintenant, vous voyez ma sœur, par exemple. Absolument. Il y a les hommes qui mettent des robes, par exemple.
Oui,
mais à l'époque, au 19e siècle, une femme en pantalon, c'était...
un scandale.
Abominable. Et donc, le personnage de George Sand est donc un personnage, on va dire, qui a joué sur l'androgynie. Vous, sur scène, vous êtes deux acteurs masculins. On est d'accord, vous êtes deux hommes.
C'est ça.
C'est-à-dire que George Sand est joué aussi par un homme.
Par un homme. Alors, c'est vrai que ça me semblait totalement justifié de par la nature de ce personnage-là qui s'est fait appeler Georges. Oui, qui s'habillait comme un homme, voilà. Donc la question du genre, elle était... Bon, je vous avoue que j'y ai réfléchi brièvement. C'est pas quelque chose... en tout cas, j'ai réfléchi à la question de l'acteur, du personnage de Sand joué par un acteur. Donc ça me semblait justifié par rapport à ça. Après, c'est vrai que vous faisiez le lien avec le frigo de copie et que peut-être dans mon travail, on retrouve quelque chose de l'ordre du genre. C'est vrai que ça, j'en ai pris conscience dans le travail. J'y avais pas pensé du tout quand j'ai décidé de monter la correspondance entre Alfred de Musset et Georges Sand. C'est quelque chose peut-être qui m'échappe un peu. Je sais pas, des choses inconscientes, j'en sais rien. Mais oui, peut-être que la question du genre dans mon travail a une, je sais pas, une existence malgré moi. Enfin voilà.
Alors, c'est vrai que le théâtre, et vous, comme je disais, ce que vous faites, c'est vraiment quelque chose qui plonge ses racines dans l'art du théâtre. L'art dramatique, l'art du théâtre. Je parlais de maquillage, je parlais des costumes, etc. Il faut savoir que le théâtre, c'est avant tout, dès les origines, c'est un jeu de masques aussi. Et aussi, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que là, beaucoup de théâtres, que ce soit en Occident ou en Orient, des femmes étaient interdites de scène et les rôles de femmes étaient joués par des hommes. Et finalement,
C'est ça, disons que c'est vrai que ça, le côté femme jouée par un homme, bon voilà, tout de suite ça rappelle le côté shakespearien,
ouais.
Et ça j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup le travestissement aussi, parce que déjà je pense que le théâtre ça n'est que ça, ça n'est que du travestissement, quel qu'il soit.
Ce qui ressort tout à fait dans ce que vous faites.
Et puis oui, c'est l'idée des masques, c'est ça, j'aime beaucoup ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup les maquillages et que j'aime beaucoup qu'on ne voit pas tout de suite les acteurs et qu'on voit des masques,
ouais.
Qu'on voit des personnages peut-être imaginés, fantasmés mais voilà, ça j'aime beaucoup ça. J'ai l'impression que ça laisse la place aussi aux spectateurs de rêver, enfin de fantasmer aussi, ouais. Comme moi je peux fantasmer tout un univers autour des textes, voilà, ça laisse une liberté plus grande peut-être que d'imposer des personnages très marqués, très réalistes, très imprégnés d'une époque, ce que j'ai pas fait là dans ce travail.
Mais la scénographie est quand même évoque de façon un petit peu théâtrale justement, mais le côté 19e siècle quand même, dans les costumes, dans même l'affiche en elle-même, déjà on est un petit peu plongé comme dans un appartement du 19e siècle avec ses tapisseries sombres, etc. Les costumes aussi que vous avez sur scène, d'après le teaser que j'ai vu, ça évoque toute cette fantasmagorie 19e siècle, je dirais.
Disons que moi j'avais envie de couleurs d'un esprit baroque.
Ouais.
J'avais envie de ça. Pourtant, ça, c'est pas du tout l'époque.
Oui, parce que c'est plutôt. On pense au romantisme plutôt dans cette époque-là.
Mais j'avais envie de ça comme couleur. Et c'est vrai que moi, je les ai beaucoup imaginés comme des créatures, un peu vampiriques, un peu. Voilà, des créatures avec toute l'imagerie qu'on a autour du romantisme poussé à l'extrême. Et visuellement, j'avais envie qu'ils soient baroque et que ce soit quand même très classieux et en même temps un peu punk, donc bourrifier, voilà, un côté un peu punk, quoi, et puis parce que c'était des punks aussi
à leur époque là, c'est certain. Très bien, bah en tout cas, donc c'est actuellement au Carré 30 à Lyon.
Oui.
Et ça donne vraiment envie d'aller le voir.
Absolument. Et donc les représentations ont déjà commencé, mais il reste encore des soirées.
Des soirées, ah, super,
voilà.
Magnifique.
Donc je crois vendredi déjà, vendredi soir. Rappelez-nous un peu les dates,
vendredi
les horaires.
Vendredi 18 et le vendredi 25. Donc les deux vendredis qui arrivent là.
D'accord.
Voilà.
Donc je relayerai les informations évidemment sur la page Facebook de l'émission, sur le site de la radio pour tous ceux qui seraient intéressés.
Voilà, et tout ça à 20h.
Et le tout à 20h au Carré 30.
Voilà.
Le Carré 30 qui se trouve rue Pizet, c'est ça?
C'est ça, voilà. Oui, c'est plein centre juste à côté de l'opéra. Voilà.
Eh bien, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre demande d'entretien.
Merci à vous.
Et puis, bon succès pour la suite de Sand Musset. Alors, le titre exact de la pièce, c'est Sand Musset Correspondance.
Voilà, c'est ça.
Ouais. D'accord. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt, Léo Bettin.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Donc, je sais pas, est-ce que tu nous as prévu une petite musique maintenant, mon petit Bernardo ? On fait ça un petit peu, tu vois, comme ça, on improvise. Sinon, je reprends ma sœur.
On ferait ça en freestyle.
Exactement.
Se réveiller dans les bras de Dalida.
Je suis réveillé dans les bras de Dalida. La vraie Stéphane, mais bon, on a dû se tromper de clé. De toute façon, quand on est rentré, on en tenait une telle. Voilà comment je me suis réveillé dans les bras de Dalida. Alors forcément, quand on s'est réveillé de le matin, toi, tu le fous, moi, ouais, c'est bon, ouais, ton lit. Ça nous a fait un sacré choc, ça, je ne peux pas dire. Bien sûr, de Dalida.
De qui ?
On est bien quand même. On a tout aussi chaud. On est bien quand même. Dalida, le Dalida, le Dalida. On est bien quand même.
C'est surtout pour toi que ça a dû être difficile.
Parce que tu vois, que je voulais avoir concerne, je n'ai même pas pu expliquer. J'aurais voulu, j'aurais même pas
non,
pu,
même pas pas pu.
M'expliquer si t'étais battu. Alors je sais, je m'éclaque, je m'éclaque comme un mari.
Salut.
Quand tu ne piques pas sa place.
Ouais, ça j'en suis sûr.
Tour, seulement moi, hier, je me suis effondré dans les bras de Morphée. Moi, je me réveille dans les bras de Dalida. Je me suis effondré dans les bras de Morphée. Pour me réveiller dans les bras de Dalida.
Mais ça, je commence à savoir.
Dans les bras de Morphée. Je me réveille dans les bras de Dalida. Je me suis évanoui dans les bras de Morphée.
Pas de quoi se vanter.
Pour me réveiller dans les bras de Dalida. Je me suis réveillé dans les bras de Dalida.
De qui ?
Mais bien quand même. Il a tout aussi chaud.
Pluriel, 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 pluriel.
Yeah. De retour dans le studio avec vous, ma chère.
Bonsoir.
Sœur Lola Rosa.
Pour ceux qui arrivent, hein, bien sûr.
Alors, donc, avant notre invité, j'ai commencé à évoquer SIDA Info Service, donc, qui et la ligne téléphonique avait été créée en 1989 en partie avec le support, le soutien de AIDE, l'association AIDE. Donc, bon, SIDA InfoService qui, depuis peu, depuis quelques semaines, a été placé, je crois que c'est le 10 mars, a été placé en redressement judiciaire. Alors ça, à la demande de SIDA InfoService. Hein. Alors, il faut savoir que le fondateur, Pierre Knepp, qui est décédé maintenant, qui est un bénévole de AIDE, est aussi un des contributeurs, une des personnes qui a contribué à la création du SIDAction qui va avoir lieu bientôt à la fin du mois. Donc l'association à la base était donnée pour objectif de la mise en place d'une ligne téléphonique avec un numéro unique, une ligne nationale, un numéro gratuit, accessible tous les jours, 7 jours sur 7. On était en 1989, c'était encore la panique et cette ligne était devenue, semblait devenue indispensable pour toutes les personnes, comme c'était en plus anonyme, hein, toutes les personnes qui se posaient des questions, anonymes, confidentielles, etc., qui se posaient des questions, qui avaient besoin d'informations, etc. Donc l'association a été soutenue à l'époque par le ministère de la Santé, qui était le ministre de la Santé à l'époque était le célèbre Claude Évin, n'est-ce pas ? Donc à l'époque le ministère avait soutenu à 100% et notamment au niveau financier parce qu'évidemment les sous c'est le nerf de la guerre et le SIDA InfoService, depuis ce temps-là, depuis sa création, depuis 1989, fonctionne essentiellement grâce aux subventions de l'État. Alors, il faut savoir aussi que les lignes se sont diversifiées. Ils ont créé d'autres lignes, une dizaine de lignes en plus, autour de la ligne principale. Toutes ces lignes étaient en relation soit avec l'infection par le VIH, soit d'autres pathologies comme les hépatites, etc. Alors, depuis 2002, depuis la création de l'INPES, donc l'Institut National pour la Santé Publique, hein, je sais pas exactement, mais bon, c'est pas, l'acronyme ne veut pas dire ça exactement, mais donc c'est un établissement public, hein, auquel a été délégué les subventions. En fait, ils reçoivent une certaine part de subventions de l'État et après, eux, redistribuent. Depuis 2002, ça se passe comme ça. Et depuis quelques années, on le sait, les dotations de l'État diminuent dans tous les domaines. Ça a commencé sous Sarko, puis ça continue maintenant. De toute façon, ça n'a pas changé grand-chose, le changement de président. Et en l'occurrence, en tout cas, l'association se retrouve démunie de plus en plus de moyens à cause de la baisse des subventions permanentes. Alors, du coup, ils se sont retrouvés, il y a quelques mois de ça, en cessation de paiement. Ils ont donc demandé à ce que le tribunal de grande instance de Paris les place en redressement judiciaire, donc qui leur permettra peut-être de rebondir. C'est ce qui s'était passé pour Act Up aussi l'an dernier, qui a été placé en redressement judiciaire. L'avenir de SIDA InfoService, pour l'instant, n'est pas pérenne, c'est certain. On peut espérer que quand même l'association, puisque c'est une association, sera sauvée. Alors après, évidemment, les dirigeants de SIDA InfoService ont plutôt tendance à accuser un petit peu justement la baisse des subventions que j'évoquais tout à l'heure. La décision de justice, à leur avis, c'est quelque chose de très positif. Surtout le fait que malheureusement, il va y avoir probablement des licenciements puisque les lignes font appel à un recrutement, à des personnes salariées, etc. Donc, ils se défaussent un petit peu, je dirais, par rapport à la décision de justice, de décisions graves comme celle de licencier, par exemple. Hein. Les personnes, ce qui va certainement arriver, il va y avoir probablement beaucoup de licenciements. Il y avait déjà eu des ajustements d'effectifs et surtout une augmentation de productivité, etc. Parce que même dans ce domaine-là, on parle de ça, oui, malheureusement. Ouais. Alors, il est reproché, et Christophe Martin là-dessus a fait un petit éditorial sur YAG, aussi à SIDA InfoService, de ne pas avoir su saisir l'air du temps. Hein, et avoir, ne pas avoir recherché d'autres modes de subventionnement que celui de l'État. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il faut s'habituer de plus en plus, je crois, au désengagement de l'État dans tous les domaines, y compris celui de la santé. Il y a aussi peut-être le fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, ma sœur, mais une sorte de un constat actuel qui fait que le SIDA ne semble plus être la priorité ni du gouvernement, mais même dans la population, oui, ça, ce n'est oui. plus.
Ça, c'est clair.
Ça ne vous apprend rien.
C'est clair.
Mais aussi, bon, beaucoup de gens pensent que le SIDA, c'est maintenant une maladie chronique qu'on soigne, que ce n'est pas très grave, finalement.
Mmh. Oui, c'est un constat qui est très juste, mon cher enfant. Effectivement. Moi, l'histoire que tu racontes, ce qu'elle m'évoque, c'est aujourd'hui à la fois, bien sûr, parce que c'est assez tragique de voir une association qui est au service de la communauté quand même. Et j'ai envie de dire, d'une façon plus large, au service de tous les citoyens, pour répondre d'une façon anonyme à un certain nombre de questions sur ses pratiques sexuelles, etc. Donc ça, c'est vraiment un crève-cœur de voir cette association mise en difficulté. Et ne plus pouvoir assumer ses missions. Mais au-delà de ça, ce que je vois autour de moi, c'est un certain nombre d'élus associatifs qui se trouvent aujourd'hui avec à la fois de grandes responsabilités, mais quelquefois aussi des dilemmes. Et notamment quand nous avons des équipes associatives avec des équipes salariées, des équipes salariées qui restent quand même très fragiles, où nous avons des salariés qui donnent énormément à la fois de leur temps, de leur énergie, et on le sait bien, pour des niveaux de salaire pas forcément mirobolants. Et quand on voit que tout ça est mis en danger, en difficulté, à propos de quelque chose que tu évoquais tout à l'heure, cette fameuse, ou ces fameuses, parce que je crois qu'elles sont plusieurs, ces fameuses lois cadres qui visent à réduire la dette publique et qui, dans l'avenir, ben c'est déjà une réalité aujourd'hui, mais dans l'avenir vont devenir de plus en plus contraignantes pour les associations. Je pense que là, il va falloir, dans les 10 prochaines années, que les associations de notre communauté, en tous les cas, réagissent si elles ne veulent pas se trouver dans des situations, des difficultés encore plus grandes. Voilà. Ça veut peut-être aussi dire que chacun d'entre nous, dans la communauté, nous allons devoir agir différemment. Et peut-être faire plus de dons. Accepter de donner plus parce que il en va de la vie des associations de notre communauté. C'est que chacun d'entre nous, on va devoir se mobiliser plus ou pour devenir bénévole ou pour donner plus en termes de dons, en fait.
Vous, les sœurs, par exemple, vous avez le don du culte.
Oui. Et il est gros. Voilà. Oui, alors nous, on
peut vous glisser quelques pièces.
Dans la fente, oui. Et elle est toujours chaude pour accueillir, bien sûr. Alors oui, bien sûr, nous, on reçoit bien sûr des dons que nous redistribuons le plus possible aux associations de la communauté qui en font la demande auprès des sœurs. Notre couvent d'Étraboules est tout un jeune couvent, donc on a très très peu de fonds, on a recueilli très peu de fonds. Nos sœurs des Gaules, je pense qu'elles sont un tout petit peu plus riches, mais guère plus que nous. Nos couvents en France qui sont les plus riches, ce sont les couvents parisiens, puisque sont quand même, elles ont une capacité de quêter, beaucoup plus importante que nous, et en tous les cas, les fonds qu'elle recueille, elle les redistribue vraiment dans la communauté, sur des projets d'action, de prévention, ou tu parlais tout à l'heure de l'action auprès des personnes porteuses de VIH, comme les ressourcements, par exemple, que nous organisons.
Oui. Voilà. Alors, les sœurs militent, on le sait, dans le cadre du VIH, du SIDA et dans beaucoup d'autres actions contre toutes les formes de discrimination. Oui. Et je sais aussi à l'époque, lors des discours, des débats surtout et des discours virulents qu'on avait entendus à l'occasion du mariage pour tous, les sœurs étaient intervenues. Je me souviens d'une intervention Place des Terreaux d'ailleurs.
Oui.
Voilà. Phénoménal. Il y a de très belles photos qui ont été faites à l'occasion, justement. C'était notamment Philippe Barbarin, le cardinal. Hein, qui avait dit que, allez, c'est en 2012, il avait dit dans les médias que bon, le mariage pour tous allait, c'était d'ailleurs ça allait à l'encontre déjà du bien-être des enfants, et puis que ça allait inciter à l'inceste, à la polygamie, à la reconnaissance de l'inceste, de la polygamie. Donc il menaçait la société de toutes les foudres de l'enfer. Et il se trouve que le cardinal Philippe Barbarin, vous n'êtes pas sans le savoir, ma sœur, vous qui vous intéressez
que lui arrive-t-il
en tant qu'ordre religieux aux événements de la Sainte Église catholique et apostolique romaine. Dans la tourmente, dans une grosse, vraiment dans une très grosse tourmente. Parce
oui,
que...
je pense que ça commence à enfler.
Voilà, exactement, jusqu'au Premier ministre.
Et ça enfle pas qu'en dessous de la ceinture, ça enfle vraiment beaucoup.
Exactement, jusqu'au Premier ministre d'ailleurs, qui a dit que le cardinal devrait prendre ses responsabilités. Bon, après on peut dire, il intervient peut-être dans des domaines qui ne le concernent pas, mais néanmoins le cardinal Barbarin était intervenu dans un domaine qui, a priori, était celui du mariage, du mariage laïque. Mmh. Hein. Donc, il pouvait éventuellement donner sa position d'opposition, d'opposition de l'Église catholique, mais peut-être pas en des termes aussi durs. Mmh. Et surtout, ça a été quand même assez humiliant pour les LGBT. Puis surtout, c'est la défense, sa sacro-sainte défense de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? C'est que bon, l'Église catholique souffre depuis de nombreuses années dans beaucoup de pays d'affaires de pédophilie, hein, donc de prêtres pédophiles. Il faut savoir que l'Église n'est pas la seule. Hein, attention, l'Église catholique, il y a aussi d'autres institutions. On a aujourd'hui, par exemple, appris que 27 personnes de l'éducation publique avaient été limogées pour fait de pédophilie. Donc toute personne, évidemment, ayant un contact avec des enfants pourrait être amenée, on va dire, à avoir parfois certains gestes déplacés. En l'occurrence, en ce qui concerne le diocèse de Lyon, il s'agissait de prêtres. Alors, c'est évidemment. Alors, donc, c'est déjà moralement, c'est insoutenable dans la mesure où l'Église elle-même est très moralisatrice. Ensuite, on va dire que légalement, c'est des actes qui sont illégaux puisqu'ils les ont accomplis sur des mineurs. Alors, il y a d'abord eu l'affaire du prêtre Bernard Prénat, qui est un prêtre donc, qui a exercé ses fonctions jusqu'à maintenant dans le diocèse de Lyon, qui était responsable des scouts, d'un groupe de scouts qui s'appelait le groupe de Saint-Luc. De 70 à 1991, il a dirigé ce groupe de scouts et à l'époque, donc, il semblerait qu'il ait eu des gestes déplacés, etc. Et puis, bon, c'est toujours assez... Alors, on parle de pédophilie, il s'agit en l'occurrence là de jeunes entre 11 et 15 ans. Hein. Dans les années qui ont suivi, certains de ces jeunes en ont beaucoup n'en ont pas parlé à leur famille, certains n'ont parlé à leur famille, qui sont allés auprès de, à l'époque, c'est cardinal de Courtrai s'en plaindre. Cardinal de Courtrai, on sait, bon, il est décédé maintenant, on sait en tout cas que lui, en tout cas, il avait convoqué le père, Bernard Prénat, et père Bernard Prénat avait fait des confessions écrites de ses actes, effectivement, dans une forme un peu de repentir. Lorsque Barbarin est arrivé au pouvoir, c'était donc en 2002, quand il a été nommé cardinal, il y avait dans les archives encore les confessions du prêtre Bernard Prénat. Et il se trouve que, à son époque, à l'époque donc de son cardinalat, depuis 2002, donc, d'autres familles sont venues se plaindre des agissements de Bernard Prénat. Et que Philippe Barbarin n'a pas pris la mesure exacte de ce qui se passait et a plutôt mis de côté un peu le dossier. Alors, il semble qu'il en ait référé, en tout cas, à la congrégation de la foi au Vatican. Le problème, c'est que il n'y a pas eu d'action qui s'en est suivie à tel point que le père prêtre Bernard Prénat lui-même a été promu dans une paroisse, prêtre du pays de Charlieu, de Roanne, une sorte de super prêtre, quoi. Alors que, apparemment, cardinal Barbarin était informé des agissements donc, du prêtre en question. Alors, ce qui se passe, c'est que d'anciens scouts donc, ont porté plainte. Alors, une dizaine à peu près de plaintes ont été formulées, ce sont maintenant des adultes, mais la plupart sont prescrites. Il y a prescription, seuls 4 ont été retenus. Et parmi ces 4 plaintes, un dépôt de plainte a aussi été fait à l'encontre du cardinal Barbarin pour non-assistance en personne en danger, puisque le prêtre en question a non seulement été laissé dans ses fonctions, mais dans les cadres paroissiaux, il était toujours en contact avec des enfants, par exemple, pour le catéchisme notamment, ou avec les enfants de cœur, etc. Alors que, bon, on peut supposer qu'on aurait pu le soustraire à la présence des enfants, puisque ce prêtre avait une propension assez avérée pour les jeunes hommes, nous dirons. Parce que, oui. Je précise quand même que c'est vrai que dans la pédophilie, on parle parfois des enfants de 7, 8 ans. Là, il s'agit d'adolescents quand même. D'adolescents dont certains avaient une certaine admiration pour le prêtre. D'autres ont vécu ça comme un traumatisme. Voilà. Il y a un site, d'ailleurs, s'appelle La Parole Libérée. De La Parole Libérée, qui est l'association hein, qui s'est formée autour des anciens, donc des plaignants de ce prêtre, au sujet des agissements de ce prêtre, où les témoignages sont portés, s'ils sont... Alors, c'est toujours pareil. On est toujours un petit peu dans la... Pour certains, il s'agissait de relations sexuelles contraintes. Donc, notamment, le prêtre aurait demandé des fellations alors qu'elles n'étaient pas souhaitées par les... Voilà. Donc, alors qu'elle n'était pas souhaitée. Ce qui est moralement, ce qui est insoutenable, c'est d'une part, bon, qui est contrainte, puisque toute violence sexuelle est immorale, de toute façon. Tout ce qui contraint une personne à agir selon, contre sa volonté n'est pas normal. Ça se passe dans le cadre de l'Église, qui est donc une institution très moralisatrice, qui pourfend notamment le mariage pour tous, on sait qu'on ait ses positions sur l'homosexualité depuis des siècles, et puis qui surtout a mis en avant la défense du bien des enfants dans le cadre du mariage pour tous. Or là, il s'agit d'affaires où des enfants sont impliqués, des adolescents sont impliqués, qui visiblement subissent des contraintes sexuelles, et il n'y a pas eu de suite alors que le cardinal Barbarin en était informé. C'est ce qu'on lui reproche le plus. Et puis manque de peau pour Mgr Barbarin, qui a reçu le soutien de la congrégation des évêques de France, en disant il faut laisser faire la justice. Hein. Ça, c'est un peu l'opacité de l'Église. Hein. Il faut laisser faire, pas prendre de responsabilité, finalement, et rester un petit peu dans le déni ou dans le côté caché des choses. En tout cas, Mgr Barbarin, manque de peau pour lui, il y a une affaire récente qui vient d'éclater à nouveau avec un autre prêtre pour laquelle il aurait été aussi au courant. Il s'agit d'un prêtre, Jérôme Biou, s'appelle-t-il, qui était prêtre de la paroisse de la Croix-Rousse et qui est aussi dans le cadre de ses fonctions a exercé des pressions sexuelles donc sur des adolescents aussi, donc des contraintes insexuelles, donc répréhensibles et punies par la loi, puisqu'il s'agissait de mineurs en dessous de 15 ans. Ça c'est un témoignage qui est paru dans le Figaro, quand un des plaignants s'est présenté à Mgr Barbarin, en lui disant, voilà, moi j'ai subi dans les années 90 de la part de ce prêtre tel et tel attouchement, etc., telle pratique sexuelle contre ma volonté. Cardinal Barbarin, vous savez, la justice est déjà passée par là et elle a tranché. Alors effectivement, ce prêtre a été condamné avec un mois de sursis pour exhibitionnisme, mois de janvier 2002, je crois, c'est un petit peu, ou 2000, un petit peu avant l'arrivée du cardinal, au cardinalat, donc Philippe Barbarin. Voilà, et donc il savait, il était au courant, et ce prêtre a continué dans ses fonctions. Il est toujours en fonction d'ailleurs. Bon, alors ce qu'on reproche à Philippe Barbarin, c'est de ne pas finalement aussi mettre en pratique ce qui a été décidé par la congrégation de la foi concernant les actes sexuels à l'intérieur de l'Église, notamment perpétrés sur les enfants, les jeunes garçons notamment. Et d'avoir un petit peu mis de côté tous ces dossiers, comme cela s'est souvent malheureusement produit dans l'Église. Donc le scandale éclate à présent, il se trouve éclaboussé, alors certains demandent sa démission, la congrégation des évêques le soutient, alors j'en parle parce qu'évidemment c'est le primat des Gaules, l'évêque...
oui, le primat des Gaules. Les primates des Gaules.
Et un des principaux prélats de France, oui, tout de même, oui. Cardinal archevêque de Lyon. Faut savoir aussi que conjointement à Barbarin, Ludwig Müller, qui est le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi et qui a été informé par Philippe Barbarin, a été lui-même condamné. Enfin, pas condamné, pardon. Mis en examen, en tout cas, pour non-assistance à personne en danger, etc., etc. Non-dénonciation de faits qui mettaient en danger donc des mineurs.
Voilà. Condamnez-les tous.
Voilà. Mais ce qui fait que c'est quand même une affaire qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, qui une nouvelle fois éclabousse un petit peu la toge écarlate ou immaculée de l'Église.
Et, oui.
Et ce qui est le plus gênant, le plus en fait scandaleux dans cette affaire, c'est Philippe Barbarin en 2012. Ah, qu'est-ce que c'est, de la musique? Alors mets-la un petit peu en sourdine, voilà, comme ça je vais conclure l'émission. Hein, qui a attaqué le mariage pour tous, les homosexuels, oui, et LGBT, et puis qui se retrouve à mettre de côté des dossiers qui impliquent des actes sexuels répréhensibles par la loi, qui concernent en plus de jeunes enfants, adolescents en tout cas.
Moi, ce que ça m'évoque, c'est un peu cet effet boomerang, c'est-à-dire que quand on veut donner des leçons de morale ou de mœurs à la société, incontestablement, à un moment donné, ça vous revient en pleine figure, ça c'est évident.
Ma sœur Lola Rosa, sur ces bonnes paroles, en tout cas, nous allons devoir nous séparer, est-ce que le temps passe
trop vite.
Bonsoir
mes chers enfants.
Et vous reviendrez nous parler de la suite des actions.
Oui, je reviendrai causer dans le poste.
Voilà, la suite des actions du couvent, nous attendons...
Des traboules.
Des traboules, je rappelle, le 26 mars.
26 mars, à partir de 18h, mes chers enfants, nous vous attendons.
Pluriel, 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 pluriel. Yeah.